sur Europe 1. Il y a le deuil, il y a la transition du pouvoir dans la monarchie britannique. Et puis, il y a la dimension géopolitique également de la reine, de ce qu'elle incarnait, de ce lien qu'elle incarnait réellement autour de ce Commonwealth notamment, qui lui aussi lui rend hommage. Nous étions en Inde et au Kenya tout à l'heure. La dimension politique et géopolitique de la disparition d'Elisabeth II, on en parle ce matin avec nos deux derniers invités. Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Je cite votre dernier ouvrage, Les Voies de la Puissance, paru chez Odile Jacob. Catherine Marshall est avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à Sciences Po. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Bon, ma fiche n'est pas bonne, non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine?
Je suis professeur des universités à Cergy Paris Université.
Ah, c'est tellement plus élégant, vous avez raison de le préciser. Catherine Marshall, je vais commencer avec vous, tiens. On l'a dit un petit peu ce matin, c'est que derrière la peine des Britanniques, il y a cette crise sociale absolument dantesque que vivent les Britanniques depuis maintenant plusieurs mois. Cet été du mécontentement, comme on l'a appelé en allusion à cet hiver du mécontentement, c'est une pièce de Shakespeare, Richard III. Enfin voilà, il y a quelque chose d'homérique un petit peu dans la crise que traverse actuellement le Royaume-Uni, et c'est, pardonnez-moi l'expression, le moment que choisit la reine pour s'en aller.
Oui, en effet. Alors, vous parlez du printemps, enfin de l'hiver du mécontentement, donc qui fait aussi
référence. C'est l'hiver 79.
Hein. C'est 79, ouais. Bien sûr. Et bien sûr, je pense que nous avons quand même tous aussi une petite pensée pour Liz Truss, qui se retrouve à devenir Premier ministre dans des circonstances extrêmement compliquées, où elle est reçue donc il y a deux jours par la reine, et puis elle se retrouve face à ce qui va être une quinzaine de jours de deuil.
Pardonnez-moi, être d'un cynisme absolu ce que je vais dire, mais politiquement, ce décès de la reine, est-ce que ça n'est pas une bonne affaire pour Liz Truss? On voit les grévistes du rail stopper leur mouvement de grève en hommage, en signe de deuil à l'égard de la reine.
Alors, d'un côté, oui. Alors, et c'est vrai que tout à fait son discours, par exemple, d'hier sur les décisions qu'elle avait prises a été complètement inaudible, puisqu'on imagine que la reine a dû sans doute décéder vers midi, alors qu'elle était au Parlement. Et que
en train
donc,
de discuter d'un plan de 170 milliards.
Hein. Absolument. Et que du coup, elle était en train de mettre en place ce qui serait forcément critiqué. Et donc, tout ça a été inaudible. Et on peut très bien imaginer que dans les 15 jours qui vont venir, tout le sera complètement. Donc d'un côté, oui, cyniquement, on pourrait dire que cet événement va bouleverser le début de la vie politique de Liz Truss en tant que Premier ministre.
Et c'est une sorte de pause politique pour elle, qui lui permet d'amorcer finalement ses premiers pas au 10 Downing Street de manière peut-être un peu plus sereine que ça n'aurait été le cas.
Alors, je ne sais pas sereine, parce qu'en effet, dès aujourd'hui, elle doit rencontrer le roi Charles III, et puis ensuite, elle va être embarquée dans 15 jours de folie qui vont être particulièrement difficiles. Ensuite, de toute façon, je pense qu'elle n'échappera pas à ce qui va être cette incroyable crise économique qui va frapper le Royaume-Uni et qui est déjà en train de le frapper dès cet hiver. Je crois pas, on en a un petit peu conscience en France, mais peut-être pas totalement. Et puis, elle va être mise face aux promesses qu'elle a faites durant l'été. Une partie de ces promesses ne pourront pas être tenues.
Baisser les impôts,
voilà,
notamment.
Exactement, avec ce qu'elle espérait comme une forme de ruissellement en fait, avec la baisse des impôts. Oui. Mais la réalité, c'est que dans le contexte de la crise économique, avec des mouvements sociaux qui vont s'élever cet hiver, un nouveau monarque qui ne fait peut-être pas totalement l'unanimité, et un pays qui est quand même assez divisé, et un parti conservateur qui est divisé. Il faut quand même rappeler qu'elle a été élue avec 53% des membres du parti, mais contre 47%. Oui. Mais au final, les députés conservateurs avaient plutôt voté en faveur de Rishi Sunak. Donc, à sa place, je pense que elle va avoir des moments difficiles.
Comment vous regardez ça, vous, Frédéric Ancel, cette interprétation qu'on peut faire finalement de cet événement gigantesque pour le Royaume-Uni, la disparition de cette monarque depuis 70 ans dans ce contexte si particulier?
En dépit de notre pompe républicaine, qui provient d'ailleurs de la monarchie, hein, en France, on a du mal à comprendre à quel point c'est important, à quel point c'est fédérateur pour les Britanniques. Et au-delà, puisque le Commonwealth, je pense qu'on va peut-être en parler, c'est plus d'une cinquantaine d'États. Mais en tout cas, pour les Britanniques, alors les Anglais en particulier, mais les Britanniques de manière générale, c'est fondamental. Le roi ou la reine font nation. Hein. Et c'est, alors bien sûr, on est sur une dimension largement symbolique, puisqu'il faut toujours rappeler que ce sont des monarques qui règnent, mais qui ne gouvernent pas. On n'est bien évidemment pas dans une monarchie absolue, mais strictement et très strictement constitutionnelle.
Oui. Souveraineté non exécutive, hein, c'est ça.
C'est ça. Et justement, c'est ce qui permet finalement à ces monarques, pour peu qu'ils ne fassent pas de bêtises, en l'occurrence, elle n'en a pas fait. Et au contraire, Elle s'est impliquée dans ce qui était strictement ses prérogatives, faibles, mais elle l'a fait. Cette dimension symbolique, elle est tout à fait fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est intéressant quand vous dites les grévistes s'arrêtent de faire grève. Bon, enfin, écoutez, est-ce qu'on verrait ça en France? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça provoquerait sans doute une controverse, une polémique, que d'aborder simplement ce sujet en France. Au Royaume-Uni, on ne plaisante pas avec le ou la monarque.
Ouais. Alors, vous avez cité le Commonwealth. J'aime bien cette comparaison. Quand elle accède au trône en 1953, ce 2 juin 1953, le Commonwealth, ce sont 9 dominions, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est 56 États et royaumes. Et sur ces 56 États et royaumes, le roi d'Angleterre est souverain de 15 d'entre eux. On ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec la francophonie qui ne cesse de se rétrécir. 400 millions de locuteurs. Le Commonwealth, aujourd'hui, c'est plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde. Près d'un tiers de l'humanité fait partie du Commonwealth. Immense succès post-colonial, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Alors, c'est un autre esprit que celui de la francophonie. Oui. Il faut quand même rappeler, comme vous l'avez dit, que ce sont les anciens dominions britanniques donc, qui se mettent en place de façon... On appelle le Commonwealth après 1949, mais ils décident de s'unir en faisant allégeance à la couronne britannique. Mmh. Et donc, on peut très bien comprendre que, finalement, quand elle accède au trône en 52 et qu'elle est couronnée en 53, oui, on a ce moment où cette jeune femme va devenir une figure d'espoir pour ce qui va être une forme de décolonisation, mais aussi de garder le lien au sein d'une famille.
Elle va accompagner ce mouvement.
Hein. Et on le voit, elle a eu un rôle extrêmement important à jouer au sein de ce Commonwealth. Elle a aussi tout fait pour garantir que son fils puisse ensuite lui succéder. C'est pour ça que Charles III va lui succéder à ce poste. Elle a été finalement une forme de colonne vertébrale pour ce Commonwealth. Mais l'autre point important, c'est qu'elle a pu aussi l'utiliser pour le royaume comme soutien à la diplomatie britannique. Mmh. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on le voit, certains pays qui n'étaient pas anciens dominium ont choisi de demander d'être membres du Commonwealth, ouais, par exemple comme le Mozambique, et c'est par choix, c'est-à-dire que c'est une famille finalement dans laquelle, un petit club, enfin pas un petit.
Ouais. Et ça dépasse la question linguistique. Vous évoquez à juste titre la francophonie d'une part et le fait que dans plus d'une cinquantaine d'États parlent anglais, mais en réalité non, ça dépasse ça, puisque le Gabon par exemple a rejoint le Commonwealth, donc effectivement je rejoins ce qui a été dit.
Le président du Commonwealth s'appelle Paul Kagame, le président rwandais.
Oui, alors en l'occurrence, qui a voulu à l'époque sortir de la sphère française, ce qu'on peut parfaitement comprendre. On regarde ce qui s'est passé en 94. Mais en tout cas, on est effectivement sur quelque chose qui va plus loin que la simple, entre guillemets, dimension linguistique. Et de ce point de vue-là, effectivement, sur le plan symbolico-diplomatique, cette reine a eu une véritable importance. Et je vous dirais que c'est quelque chose qui dépasse ce dont dispose la France comme outillage diplomatique.
On se rappelle, l'organisation Global Britain, c'était le projet de Boris Johnson. De fait, le Commonwealth, c'est Global Britain.
Alors ça ressemble à ça. Et quand vous disiez, mais quand vous compariez tout à l'heure ce nombre d'États et de locuteurs d'anglais dans le cadre du Commonwealth, oui, mais c'est très précisément l'illustration de ce que fut l'Empire britannique par rapport à l'Empire français. Il est bien évident que c'était le plus important au monde, loin devant l'Empire français, lorsque ces deux empires s'effondrent dans les années 50-60.
Alors évidemment, ça donne l'impression de dresser l'image Londres, espèce de phare de l'humanité au sommet duquel trônerait la reine. La réalité, c'est aussi, et c'est un fait important, c'est que cette semaine, le PIB de l'Inde, donc la richesse nationale créée chaque année par l'Inde, a dépassé celle du Royaume-Uni. Tout ça intervient au moment où disparaît la reine Elisabeth II, 70 ans de règne.
Alors, c'est vrai qu'en effet, il y a quelque chose...
Symboliquement, c'est très fort.
C'est symboliquement, et puis il y a quelque chose d'extrêmement triste dans le fait qu'elle devient reine après la Seconde Guerre mondiale, dans une période où encore il y avait un rationnement. Il y avait une forme d'espoir dans cette jeune femme, belle, avec un beau mari et deux jeunes enfants. Et là, finalement, elle s'éteint à un moment de crise qui nous rappelle vraiment la période de la fin des années 70, mais une crise qui va être longue et difficile, et dans un contexte dans lequel le Royaume-Uni a aussi choisi de quitter l'Union européenne. Donc en fait, il y a comme une petite flamme qui s'éteint et une forme de tristesse qui est profonde. Je pense en effet que les jours qui s'annoncent vont être compliqués.
Ouais, il y a quelque chose de presque crépusculaire quelque part, Frédéric.
Alors oui et non. Oui, dans une période extrêmement courte qui est la nôtre aujourd'hui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la crise et entre parenthèses, sur les mensonges effrontés du prédécesseur de Liz Truss, c'est-à-dire que Johnson a raconté n'importe quoi aux Britanniques et ils sont en train déjà de commencer à le payer maintenant, notamment en termes de Brexit. Mais c'est une autre question. Mais sur des temps plus longs, comme l'aurait dit peut-être Fernand Braudel, sur des temps plus longs, inversons le postulat. Il est remarquable que le Royaume-Uni ait réussi à se maintenir au statut de grande puissance. Car c'est toujours une grande puissance. C'est ce que j'appelle dans mon ouvrage une grande puissance pauvre, à l'image d'ailleurs de la France et même quelque part de la Russie, mais dans un autre domaine. Ça reste quand même une grande puissance. Non seulement une référence symbolique, linguistique, culturelle, diplomatique, comme on le dit il y a un instant, mais de manière extraordinairement concrète, en dépit de la crise économique qui frappe durement le Royaume-Uni, mais qu'on se souvienne aussi des années 70, on en a parlé tout à l'heure, il y a à chaque fois un rebond, une espèce de résilience hein, et une résistance à tous les sens du terme.
Et la France
bien vu en 40.
Connaît ce genre de cycle également
mais,
aussi.
Mais,
hein.
mais absolument, mais on est d'ailleurs sur deux, enfin je crois que là on évoque deux États qui sont fondamentalement, et deux sociétés qui sont très proches et sans doute de plus en plus proches.
Comme deux frères et sœurs qui s'adorent et se détestent en même temps, très intéressant. Merci d'être venu nous voir. Frédéric Ancel, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Voix de la Puissance, édition Odile Jacob. Et merci Catherine Marchal d'être également venue nous voir ce matin. Bonne journée à tous les deux. Merci.